Bonjour à tous. Tout d'abord, merci au PUCA et à tout le monde de nous accueillir ici. C'est un véritable plaisir de découvrir ces initiatives et ces projets très riches. On est toutes les deux architectes et habitants du quartier de la Gautière. Et on est, je dirais, les pilotes de l'université foraine. Donc, il y a un projet monté par pas mal de monde, dont Patrick Bouchain, sur ce quartier-là. Donc, on va resituer brièvement le projet. Et puis, à travers deux axes qu'on a développés depuis ces trois ans, on va essayer de répondre un petit peu à la question que la table ronde nous a posée sur les matérialités de ces interventions. Donc, je dirais qu'en fin 2012, comme la plupart des grands ensembles, on a dû démolir certains bâtiments du quartier, dont ces trois tours. Et la ville n'avait pas forcément de moyens pour reconstruire et non plus des programmes qui lui paraissaient pas très intelligents. Donc, on s'est retrouvé face à un terrain vide. On était aussi dans un moment de tension sociale et d'émeute sur Clermont-Ferrand, ce qui était très rare pour cette ville. Et la ville a rencontré l'association Notre Atelier Commun, donc qui nous emploie toutes les deux, à mi-temps, pour proposer une façon différente de travailler sur l'espace urbain, sur un programme de laisser-faire, de liberté, de confiance et d'imprévu aussi. Donc, afin de relever des choses que le territoire pourrait avoir envie et de monter ces choses-là. Donc, on s'est installé en permanence toutes les deux sur ce quartier-là. Et on a une convention d'une année qui a été validée au conseil municipal de décembre 2013 pour la genèse avec le PUCA, la ville et l'association.
Donc janvier 2014, nous emménageons dans le quartier. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important sur l'ancrage et nous notre position en tant que professionnelle et habitante. Et on installe une permanence architecturale, c'est-à-dire un lieu qui est dédié au projet et qui est situé sur le site qu'on questionne à réaménager. Donc on essaye d'y créer un lieu de vie, un lieu d'hospitalité. On est sur place pour recevoir tous ceux qui veulent participer au projet, les habitants, les services de la ville, les élus, mais aussi les curieux, les écoles de Clermont et d'ailleurs. On mène des actions qui sont multiples. On essaye d'augmenter le territoire d'une programmation de rencontres, de débats, de concerts, d'expositions. On essaye d'ouvrir ce terrain qui est vide quand on arrive à plusieurs types d'occupations. Et d'essayer de permettre un espace de rencontre par des superpositions de différentes activités. Et surtout, on essaye d'aménager en favorisant la rencontre d'acteurs, d'envie et de savoir-faire pour construire un véritable tissu humain qui sera un préalable à des constructions potentielles futures. Donc c'est une démarche qui est finalement assez modeste et qui repose beaucoup sur l'ancrage territorial et les ressources qu'on va pouvoir venir chercher sur le territoire. Et la constitution d'un véritable écosystème un petit peu autour de ce projet. Donc notre première année, c'était celle un peu de l'expérimentation, donc s'implanter dans le quartier, rencontrer les acteurs locaux et tisser un réseau vraiment à l'échelle de la ville aussi. C'est ouvrir le champ des possibles, donc voir un peu tout ce qui se présente à nous. Et l'entrée thématique qu'on a eue sur le territoire, c'était d'organiser des temps d'université foraine, qui sont des temps de conférences à chaque fois sur une thématique. Donc ça peut être sur la santé, le jardin, voilà, des grandes questions un peu de la vie. Où là, on fait converger des spécialistes, des habitants et un peu tous les curieux, des artistes aussi. Et à partir de ça, on cible des propositions d'action et on va proposer des scénarios d'aménagement à la fin de cette première année, nourris un peu de tous ces temps formels ou plus informels. À ce moment-là, les services de la ville sont plutôt enthousiastes et la convention avec la ville est renouvelée au bout de cette première année. Donc sur cette première année, c'est vrai qu'on a travaillé, on a eu une carte blanche totale, on a travaillé très en autonomie par rapport aux services et à la municipalité, ce qui ensuite, vous allez le voir, on a essayé de travailler beaucoup plus en collaboration. Donc sur les choix programmatiques qui ont été faits, voilà, nous on va vous parler plus de deux axes de travail principaux, parce que ce qui est ressorti des envies habitantes et de toutes ces discussions et ces actions, c'était plutôt que l'idée, c'était plutôt de ne pas reconstruire en fait, et de garder ce vide, cette respiration qui en fait participe de la vie sociale du quartier et de peut-être mieux l'aménager en un espace paysager. Et l'autre option, c'était de réhabiliter donc le bâtiment dans lequel on se trouve, qui à la base aurait dû être détruit aussi. Et nous, on a un peu milité pour que non, il ne soit pas détruit, mais qu'il puisse être transformé, réhabilité et construire un programme un peu, donc là, en l'occurrence, autour de la petite enfance et de la parentalité. Et après, on a un troisième axe, mais qui est un peu en filigrane de ces deux, qui est la question de la transmission sur les pratiques qu'on a pu mettre en œuvre au cours de ces trois années.
Donc, sur l'aménagement paysager, on a eu tout d'abord, sur ces premières années, je dirais, un travail de préfiguration plus ou moins pérenne. en invitant des collectifs qui sont ici présents, parce qu'à deux, parfois on n'est pas assez pour construire, et que ça c'est intéressant d'être à plusieurs et d'inviter aussi des gens d'ailleurs à venir se poser la question avec nous et rencontrer de nouvelles personnes. Donc après ces préfigurations, je dirais, il y a eu une vraie volonté, nous, de notre côté, et puis un ressenti des habitants aussi qui voulaient des choses un peu plus solides, donc de passer à l'action. Et du coup, on a essayé de mettre en place un atelier avec, du coup, les services de la ville qui ont l'habitude de choisir sur catalogue leur mobilier, mais là, de leur dire, bah, peut-être qu'ici, il y a cette personne qui a des compétences, comment on peut articuler ça pour que ça puisse rester pérenne dans le paysage. Donc, on a travaillé avec des outils qui sont ceux du monde de l'aménagement paysager. Donc, avec des maquettes, avec un plan masse qui a été plus dessiné, je pense, qui vient peut-être après, voilà, par les services de la ville, et qui était à chaque fois, nous, en observation dans notre permanence, et qui permettait des allers-retours avec les habitants qui passaient, ou des temps où nous, on se mettait sur le marché, on disait, bah voilà, où s'en est la maquette, qu'est-ce que vous en pensez, ce genre de choses. Donc c'est une réunion qui est pour l'instant très formelle, hein, qui s'apparente à ça, où on arrive à amener des partenaires extérieurs, donc des associations qui œuvrent par exemple pour réimplanter des séances locales sur le quartier, ou par exemple un BTS, l'aménagement paysager, qui viennent sur ces temps-là, et sinon on est plutôt déjà sur une innovation pour la ville qui est présente, peut-être pour en reparler après, mais de réunir les services gestionnaires, les services dessinateurs sur un même temps de conception d'un projet. Donc, une des premières actions qui a été, je dirais, pérenne sur le terrain, et, enfin, qui se veut pérenne, parce qu'il y a des aménagements qui ont été construits, une énorme table, par exemple, que vous voyiez tout à l'heure, qui est toujours présente, mais ça a été la plantation d'un verger. Donc, quelque chose pour lequel on s'est battu, nous, pour que ça arrive en mars et pas en novembre la semaine prochaine, parce que finalement, tout le monde a essayé de mettre un frein, mais on n'aura pas. Il va pleuvoir, ça ne va pas pousser, les arbres vont mourir, les arbres vont se faire arracher, on n'a pas prévu ça. Donc on a réussi par l'injonction des élus en leur disant il faut que quelque chose se passe, c'est important pour le quartier et c'est important pour aussi le projet qu'on mène depuis 2 ans, qu'il y ait des faits concrets sur le territoire. Donc on a fait ça avec une énorme fête, avec un repas partagé, une petite conférence sur la confiserie auvergnate et ce genre de plaisir. Et donc c'est quelque chose qui a très très bien fonctionné. On a vu que finalement, avec très peu de moyens, parce que le verger n'a pas coûté très cher, on arrive à créer un événement très très positif pour les 60 personnes qui étaient présentes sur ce terrain-là. Donc je dirais qu'on a aussi du coup travaillé sur la mise en place, mais trop tardivement, parce que finalement tout le monde tentait à repousser ce moment de la plantation, sur la mise en place des conditions d'autonomie d'un tel système, où on avait l'idée derrière la tête que chaque mois finalement, parce que pendant 3 ans les arbres, il faut les arroser une fois par mois, les habitants pourraient venir. Donc là pour l'instant il y a quelques familles qui viennent, il y a un monsieur qui est un petit peu le papy du verger, qui lui le fait pour tous les arbres, mais c'est encore quelque chose qui est arrivé trop tardivement dans le processus de la participation. Et donc on a une deuxième... Ah, il y a d'autres photos. Le verger aujourd'hui, après un petit mois d'août chaud. Et on a un deuxième chantier donc de construction plus pérenne qui va venir, donc avec un BTS aménagement paysager où des étudiants ont déjà travaillé sur une esquisse l'année dernière, et où finalement on a réussi à un petit peu combiner les différentes envies des habitants, des services et des étudiants pour aménager une partie du terrain. Donc voilà.
Et peut-être juste pour revenir sur ce programme, c'est qu'on a vraiment invité les habitants à participer à la mise en œuvre de cet événement et de cet aménagement, et les arbres sont super bien respectés, il n'y a pas de dégradation, ça joue vraiment aussi sur comment les espaces sont appropriés par la suite. Donc de ces relations avec qu'on a réussi à tisser avec les services, où on se positionne vraiment comme un relais entre habitants et services municipaux. Ça a vraiment permis, par la fréquence de nos rencontres et de nos réunions, de compléter aussi des programmes avec certaines demandes d'habitants qui ont émergé, et à réfléchir un peu comment on pouvait mener ces différentes actions de co-construction avec eux. Donc il y a la notion d'espace de jeu, d'espace ludique qu'on a beaucoup travaillé, qui vient beaucoup des enfants. Les barbecues, enfin, je pense que c'est quelque chose d'assez récurrent de toute façon dans ces quartiers. L'envie d'espace de jeu pour du vélo, de spots de musculation. Enfin, voilà, c'est quand même des usages en fait, finalement, qui reviennent assez souvent. Et surtout, ce qui est assez intéressant, c'est que ça permet de construire une espèce de cohérence des projets à l'échelle du quartier. Et en fait, même en discutant avec les services de l'urbanisme, ils disent, mais enfin, nous, c'est super d'arriver à faire le point sur tous les projets voulu être faits, qui ont été menés, qui n'ont pas été faits, et qu'en fait les choses sont tellement découpées qu'on n'y trouve plus vraiment de sens. Et c'est vrai que le fait d'être sur place et de pouvoir discuter, ça permet vraiment de recréer un peu cette cohérence et de se créer aussi une culture commune de projet. Donc nous, par le fait d'être en permanence aussi, on connaît voilà, tous les acteurs. Donc voilà, il y a les cantonniers. On a réussi à se tisser vraiment un réseau à différentes chaînes de la production aussi de l'espace. Il y a les gens qui s'occupent de l'entretien. Enfin voilà, il y a le monsieur qui découpe l'arbre. En fait, lui, ça a été très très compliqué au début puisqu'il est gestionnaire de l'espace public. Donc lui, quand il a vu ce qu'on construisait, enfin, ça l'a rendu fou. Et là maintenant, il vient sur le verger, il vient discuter. Enfin voilà, il y a des déclics qui se font petit à petit. Et nous, on a essayé de travailler aussi sur cette notion voilà, de culture commune et de transmission en organisant aussi des visites avec ces gens-là de la ville et avec des habitants. Donc là, par exemple, on allait visiter le parc Sergent-Blandan à Lyon avec les gestionnaires aussi du parc pour que les gens de la ville de Clermont discutent avec leurs homologues et que le message aussi passe mieux sur d'autres manières peut-être de gérer l'espace public et le végétal. Et après, il y a beaucoup de choses qui nous posent question. C'est que avec les habitants, il y a plein d'initiatives qui fonctionnent, enfin des choses qui émergent où les gens se saisissent et vont construire des choses par eux-mêmes, remarquent qu'il manque un usage. Enfin, là, vous avez la photo en bas, c'est devant l'école. En fait, il n'y a même pas de banc pour que les parents puissent s'asseoir. Et donc, nous, on a un habitant qui vient nous dire un matin, vas-y, moi, je veux faire un banc, je pense que ça peut être utile. Donc, on l'a un peu accompagné là-dedans. Mais c'est vrai que toutes ces choses qui naissent un peu d'initiatives spontanées, ça pose vraiment la question de la norme et de la responsabilité. Et comment est-ce qu'on peut accompagner ça sans tuer toutes les initiatives, toutes les idées que les gens peuvent avoir un matin et ont envie de réaliser. Et après, juste pour finir, peut-être qu'on a, en tout cas, on a senti une vraie adhésion croissante des services, même si elle a été longue à mettre en place, parce que notre légitimité a mis du temps à être faite, parce qu'on voilà, c'est un projet qui est né d'une commande politique, mais on va dire que la chaîne n'a pas été suivie et cette volonté politique n'a pas été transmise au service. Donc nous, on a dû pas mal ramer derrière pour expliquer notre légitimité et pourquoi on était là et ce pourquoi on travaillait. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui, finalement, tout le monde s'y retrouve parce que ça redonne quand même du sens au travail de chacun.
Donc peut-être ensuite sur le deuxième axe de notre travail qui a été du coup sur ce pôle petite enfance famille qui a été en fait au début... dans les lignes de l'ANRU, il y avait l'idée, donc dans le bâtiment, il reste une crèche de 30 berceaux, et l'idée, c'était de raser ce bâtiment et de reconstruire à côté une crèche de 30 berceaux. Donc c'est quelque chose qui n'avait pas du tout été questionné du point de vue, je dirais, politique, dans le programme global éducatif de la ville, ou ce genre de choses, sur la petite enfance. Donc nous, notre première question, c'était de re-questionner, je dirais, la pertinence d'un tel programme pour la ville, déjà, quels étaient les besoins du service petite enfance. Ensuite, de re-questionner, le programme par rapport à nous, notre immersion dans le territoire et ce qu'on pouvait observer, donc, c'est-à-dire beaucoup d'enfants errants, des parents qui étaient parfois très impuissants par rapport à certaines violences sur le territoire et des difficultés de langage, un vrai besoin d'accompagnement à la parentalité sur ce territoire-là. Et puis, on a aussi essayé d'insuffler des programmes qui nous avaient été soufflés par des habitants lors de discussions formelles ou informelles, donc qui étaient plus sur la notion du bien-être ou quelque chose pour les femmes ou un espace pour les enfants aussi, enfin, toutes ces questions-là. Donc nous, on a utilisé des outils de l'architecture, toujours, hein, pour se projeter en maquette donc, et avec des supports visuels. Et puis, on a proposé surtout de transformer le bâtiment qui existait, donc on avait déjà 800 mètres carrés, pour le transformer du coup, dans un lieu de ces possibles... programme qui émergeait du territoire. Donc on a finalement à la fin, au milieu de notre deuxième année, trouvé un compromis sur le programme avec le monde politique. Donc pas de hammam, mais déjà une salle de motricité et une grande salle commune où on pourrait imaginer des choses. Et un lieu hybride avec différentes structures, mais en laissant une place à des initiatives habitantes et des initiatives associatives aussi. Donc ce programme a été validé, il y a eu un budget. Et nous, on a commencé du coup à préfigurer des usages avec des habitants, des partenaires un petit peu de partout, donc des travailleurs sociaux, des coiffeuses. Et on a organisé d'autres événements sur ces thématiques-là, donc qui permettaient de commencer à avoir une appropriation à la fois des habitants, mais à la fois des autres partenaires qui pourraient venir travailler dans ce bâtiment avant que ce bâtiment soit déjà livré. Oui, on se rapproche de la conclusion.
Et du coup, donc, re-questionner le programme et aussi re-questionner la réalisation du programme et donc la maîtrise d'œuvre. Donc, il y a eu plusieurs options qui ont été envisagées. La tentative de la création d'un atelier public qui nous associerait avec les services de la ville donc l'architecte en interne et les autres services associés, sous l'impulsion de Patrick Bouchain qui a déjà monté ce genre de projet similaire. Il s'est trouvé qu'on s'est heurté à un professionnel qui n'avait pas du tout envie de collaborer et qui a un vrai blocage, donc il a fallu trouver une issue. Donc il y a eu le choix de choisir une maîtrise d'œuvre externe avec le lancement d'un appel d'offres et d'une consultation et du coup d'une mise en concurrence. Et avec un cahier des charges qui inclut du coup une démarche participative, donc ce qui était déjà très innovant pour Clermont. Nous, on a eu envie clairement de réaliser ce projet, de poursuivre la dynamique qu'on avait initiée dans le projet de construction. Donc nous y avons répondu toutes les deux avec un architecte local clermontois. Et pas de chance, on n'a pas été classé en tête de classement. Il se trouve que la délibération a eu l'été, que les élus qui suivaient le projet n'étaient pas là et qu'on s'est retrouvé à ne pas avoir l'appel d'offres. Donc là, voilà, on a atteint un peu les limites de l'expérimentation et du portage politique qui voilà, a pêché sur certains points. Donc là, on est sur un travail de transmission avec les personnes qui vont venir après nous. Et après, pour répondre peut-être à la question, on va conclure, on aura l'occasion d'en rediscuter, mais je pense que qu'est-ce que ça crée comme espace ? C'est plutôt la question, je pense que c'est plus le processus que la forme qui est intéressant, parce qu'en soi, la forme, elle pourrait être la même, mais c'est plus tout ce que ça va générer chez chacun des acteurs et les manières de travailler qui... Voilà, je pense que c'est plus ça, notre pertinence et ce que ces projets apportent. Voilà.
Je vous remercie. Je trouve que ce projet fait... Je ne sais pas si on entend, oui. Ce projet constitue une bonne synthèse un peu des actions du programme. Je trouve qu'il y a des ingrédients qu'on commence déjà qui se dégagent un petit peu des différentes présentations. Le premier, c'est la question de l'immersion du temps long. On voit bien que ce que vous avez en commun, la plupart des équipes, c'est à distance des programmistes qui font une programmation d'un projet de rénovation urbaine en quelques visites de terrain. Et je disais ce matin, une compilation de données INSEE sur le quartier. Il y a vraiment une immersion très longue. Deuxième chose, qui est une attention à la phase de programmation, un soin très particulier à cette phase-là, qui a peut-être, enfin même certainement, été négligé dans le cadre des projets de rénovation urbaine première vague de l'ANRU, où il y avait une injonction à faire du projet rapidement, quoi, à sortir du projet, à afficher de l'action, etc. Ce qui fait que cette phase de programmation a parfois, pour certains quartiers, alors pour d'autres, il y en a qui étaient déjà depuis 10 ans engagés dans la politique de la ville, donc c'est différent, mais enfin pour certains, ça a été un peu bâclé. Et ce soin, cette phase-là de programmation, avec cette immersion dans le quartier, donne lieu, et c'est la même chose pour planning, qui nous a été présenté tout à l'heure, à des catégories d'actions un tout petit peu différentes de celles qu'on a l'habitude de voir dans un projet de rénovation urbaine classique. Je trouve ça assez intéressant. Dans toutes les présentations qui nous ont été faites, il n'a jamais été parlé de désenclavement, de résidentialisation, de créer de la mixité sociale. Enfin, tous les ingrédients de l'action publique traditionnelle en matière de rénovation urbaine semblent absents. Et c'est aussi vrai dans le projet dit stratégique et démocratique de la Villeneuve. On voit que les thèmes qui émergent de ce projet-là, ce sont des thèmes sur la question de l'éducation, sur la question de l'agriculture urbaine ou du jardinage. Enfin bon, vous le verrez encore une fois dans le bouquin qui a été fait sur l'expérience de Villeneuve, mais on a des catégories d'action ou d'appréhension de l'urbain qui sont un tout petit peu différentes. Alors, à tel point que parfois, on en arrive à se demander si ça relève encore de l'aménagement. C'était une question qu'on se posait hier avec François, c'est-à-dire que la transformation des lieux passe aussi par des formes d'animation, de gestion, de travail sur la carte scolaire, d'attention aux pratiques quotidiennes, etc., qui ne sont pas toujours de l'ordre direct de l'aménagement.